Oui.
On a dit que donc la science, de par sa méthode, elle voit la trace, le symbole, en fait, d'une réalité qui serait plutôt immatérielle. Mais comment est-ce que alors quelque chose d'ordre immatériel pourrait influencer quelque chose d'ordre matériel?
Oui, je. Voilà, justement, ça c'est la question qui va se poser, de savoir comment on va articuler les plans. Effectivement, donc si j'ai une réalité qui par ailleurs ne serait que la réalité moléculaire, comment se fait-il que le moléculaire engendrerait quelque chose qui n'est pas de cet ordre-là? Oui, ça c'est la question fondamentale de l'articulation, justement. Et donc, on pourra avoir différentes solutions, mais la solution que nous cherchons, c'est justement d'avoir comme un ancrage qui permette à la fois de respecter ce sol empirique et à la fois de respecter la transcendance de la réalité qui n'est pas seulement cela. Mais ça, c'est le gros problème, justement. Hein, c'est le problème central des rapports entre science et théologie. Donc, effectivement, ça, je dois y répondre, je vais y venir. Ça va ? Bon, alors, je m'arrête ici en disant, bon, science, c'est l'ensemble des méthodes et des pratiques qui permettent de décrire et d'expliquer des éléments de réalité empirique, au sens pouvant être expérimentés et ou observés. La philosophie et la théologie, alors, je vais mettre ceci, donc maintenant on sait plus ou moins ce que sont les sciences, la philosophie et la théologie, la philosophie, ce serait l'ensemble des discours cohérents, parce que dans le fond, une philosophie se doit de répondre à un certain nombre d'exigences logiques, sinon elle ne dit plus rien. Remarquez que ce n'est pas évident, parce qu'on pourrait se dire, mais pourquoi je dois être logique? D'accord? Dans la clarté obscure du jour qu'était la nuit, aux quatre coins d'une table parfaitement ronde, un mort parfaitement vivant déclamait des choses que l'on n'entendait pas, hein, etc. Vous pouvez dire des choses, des belles choses comme ça. Vous pouvez dire des choses comme ça, c'est très bien. C'est très bien, mais ça n'existe pas. Pourquoi? Mais parce que, dans le fond, pourquoi doit-on suivre un certain nombre de règles logiques? Parce que les règles de logique assurent un minimum d'accrochage avec le réel. Et pour le moment, il n'y a aucune évaluation. Et bien entendu, vous avez compris qu'il y a évaluation. D'accord? Alors, quelqu'un se présente en disant, mais voilà, je viens pour l'évaluation de module. Je dis, mais non, il y a évaluation, mais il n'y a pas évaluation. Donc vous pouvez retourner. Il retourne et je lui mets zéro. Il ne s'est pas présenté à l'évaluation. Mais vous m'aviez dit qu'il n'y avait pas évaluation. Mais si, il y a évaluation, mais il n'y a pas évaluation. D'accord? Bon. Si vous dites ça, ça n'a l'air de rien. On pourrait dire, pourquoi doit-on suivre un certain nombre de règles de logique? Pas nécessairement simplement pour le plaisir, parce que c'est amusant, mais c'est parce que la logique, d'une certaine manière, assure l'ancrage avec un réel. La consistance logique permet l'ancrage avec un réel. Et si vous ne me croyez pas, je ferme la porte et je vous dis, courez pour sortir. Et vous dites, mais elle est fermée. Non, elle est ouverte. Mais elle est aussi fermée. Elle est ouverte et fermée. À ce moment-là, vous rendez compte, par un argument assez simple, qu'il y a quelque chose du rapport à la réalité qui n'existe plus. Oui.
On retrouve aussi le problème d'incohérence qui serait spécifique, par exemple, chez les sophistes qui avaient un raisonnement parfaitement cohérent, et pourtant ils estimaient quelque chose de faux et de.
Oui, oui.
Aujourd'hui, on a interrogé dans la façon dont certains analystes s'expriment, ils parlent de.
Qui est purement rhétorique. Voilà. Et c'est ça.
Oui. On retrouve quelquefois des parallèles entre science et rhétorique.
Oui, c'est ça. C'est avec la différence, puisque Aristote fait effectivement la critique de la rhétorique pour montrer, de la sophistique, pour montrer qu'en fait, ils ne s'accrochent à rien. Ils disent des choses qu'on croit profondes, mais en réalité, ils ne disent rien. C'est comme si celui qui dirait, je ne sais pas, le néant existe, et je vais maintenant vous dire beaucoup de choses sur le néant pur. Mais à partir du moment où je dis que le néant existe, il n'est plus. Hein, je peux dire beaucoup de choses sur le néant et faire un grand discours et pleurer en m'émerveillant devant la profondeur insondable du néant. Mais si le néant est vraiment l'inexistence de tout, alors il n'existe rien. Et comment êtes-vous là pour parler de quelque chose alors que rien n'existe? Bon, ça, c'est typiquement la réfutation que fait Aristote des sophistes. Effectivement. Alors, la différence de la science, c'est que la science en général n'est pas sophistique. Donc elle essaye de suivre un certain nombre de règles, de logique, etc. Mais c'est vrai qu'une cohérence peut être une cohérence purement rhétorique et qui est liée peut-être à la structure grammaticale qui est correcte. Hein. Quand je dis la profondeur insondable et merveilleuse du néant pur, il n'y a aucune faute là-dedans, aucune faute de logique formelle, et il n'y a pas de faute grammaticale. Enfin, du moins je l'espère, parce que... bon. Puisque je suis belge, sûrement je dois faire des belgicismes sans m'en rendre compte, mais probablement qu'il n'y a pas de faute grammaticale, vous voyez, ou de la langue française. Bon. Mais c'est pas parce que c'est cohérent de ce niveau-là que c'est juste. Et dans le fond, la philosophie essaye de suivre des règles de logique, parce que dès qu'on ne sait pas très bien pourquoi on les suit, mais je suis sûr que si on ne les suit plus, alors il y a quelque chose du lien avec le réel qui est perdu. Donc c'est pas purement arbitraire, si vous voulez. Il y a une raison. La philosophie, c'est l'ensemble des discours et des pratiques qui viseraient à élucider, à clarifier, voire à résoudre des questions de sens et de fondement. Alors, je mets un ingrédient de plus, fondement, parce que non seulement la philosophie va essayer de décrypter cette réalité dont le monde empirique est le signe, mais souvent le philosophe se pose la question de savoir... comment se fait-il que la réalité existe et comment se fait-il que la science, même la science, peut dire des choses sur cette réalité? La science part de ce qui existe. Mais pourquoi la science réussit-elle à décrire des choses qui existent? En général, le biologiste, le physicien, ils décrivent des choses à partir de la physique, ils disent soit... une quantité d'énergie matière, soit les lois de la physique, et je vais vous expliquer pourquoi nous sommes là. Mais on pourrait me dire, mais pourquoi y a-t-il donc quelque chose qui existe? Vous dites, il existe. Mais d'abord, qu'est-ce que ça veut dire l'existence? Ça, c'est une question de fondement. Et les présupposés de la science. La science explique la nature, mais qu'est-ce qui explique la science? Qu'est-ce qui peut expliquer pourquoi la science fonctionne et s'accroche au réel et dit des choses du réel? Ça, c'est typiquement une question de fondement. D'accord? Je dis que toute science part de quelque chose qui existe, mais pourquoi y a-t-il donc de l'existence et non pas plutôt rien? La fameuse question de Leibniz, la fameuse question métaphysique. Hein? Ben ça, c'est une question de fondement. Donc, la philosophie, contrairement aux sciences, élucide, clarifie, tente de résoudre des questions de sens. Y a-t-il oui ou non une réalité profonde dont la réalité empirique serait le signe? Et quelle est-elle? Des questions de fondement. Quelles sont les raisons profondes qui font que tel concept est important? Quelles sont les raisons profondes de l'existence? Quelle est la source de l'existence? Et j'ajouterai, mais on pourrait le voir comme une question de sens, c'est la question de l'évaluation aussi des comportements et des actions, c'est la question des valeurs. Question axiologique, dirait-on avec un grand mot. Hein. Question de sens, de fondement et de valeurs.